13h10, temps universel, c'est l'heure du rendez-vous d'Haïti et des Amériques présenté par Marie Normand. Bonjour Marie.
Bonjour Chantal, bonjour à tous. Au sommaire aujourd'hui, il s'adressera ce soir aux représentants, aux sénateurs, aux juges de la Cour suprême et aussi à des millions de téléspectateurs américains. Grand oral aujourd'hui pour Donald Trump. L'enjeu, entre autres, c'est de rassurer l'opinion publique. Et c'est ce que nous dira Stéphanie Schuller. Nous verrons aussi ce qu'en dit la presse mexicaine alors que la pression s'accentue sur les migrants. La revue de presse, ce sera avec vous, Véronique Guémard. Bonjour.
Bonjour.
Reportage aussi à New York aujourd'hui. New York coupé en deux entre pro et anti-Trump. Une association se bat pour défendre les immigrés illégaux, avec notamment le seul avocat sans papier de New York. Nouvelle égérie de cette bataille.
Pour moi, je suis pas seulement un avocat, je suis aussi un sans-papier. Je suis un immigré qui peut potentiellement être expulsé. On doit raconter nos histoires parce que c'est exactement ce qui nous rend plus puissants. Et c'est comme ça que les gens vont comprendre. Eh, hey, c'est mon voisin, ma petite amie, mon petit ami, mon pote. Et c'est exactement ce qui nous rassemble.
Et nous parlerons aussi des pluies au Chili qui provoquent d'énormes coupures d'eau dans la capitale. Et puis de samba aujourd'hui, car c'est toujours le carnaval en ce moment au Brésil. Îles et dans toutes les Caraïbes. Il y a 40 jours, Donald Trump arrivait à la Maison-Blanche. C'est une tradition qui perdure depuis la présidence de Ronald Reagan. Le président américain prononcera ce soir à 2h temps universel un discours devant les deux chambres du Congrès américain réunies. Rarement cet événement n'a été autant attendu qu'aujourd'hui. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Attendu, je le disais, car pour Donald Trump, les enjeux sont très élevés.
Absolument. Le nouveau locataire de la Maison-Blanche s'adressera non seulement aux représentants et sénateurs américains, son intervention sera également suivie par des millions de téléspectateurs. Peut-être l'occasion de prendre un nouveau départ. Après un début de présidence à la teneur chaotique, explique Alan Abramovitz, professeur en sciences politiques à l'Université d'Emory à Atlanta.
Pensez à la polémique suscitée par le décret interdisant certains étrangers d'entrer sur le territoire américain, puis suspendu par la justice. À la démission de son conseiller à la sécurité intérieure, à ses attaques contre la presse. Tout cela a bouleversé le pays. Pour un président en début de mandat, il est très bas dans les sondages. L'enjeu pour lui est donc de rassurer l'opinion publique. La question est de savoir s'il ne s'adressera encore une fois qu'à ses fidèles partisans ou cette fois-ci à un public plus large.
Mais les électeurs américains ne sont pas les seuls à avoir besoin d'être rassurés. Les élus du Congrès aussi, y compris ceux de la majorité républicaine, voudraient savoir quelle sera la place que ce président dirigiste leur laissera. La politologue Françoise Coste est spécialiste des États-Unis à l'Université de Toulouse.
Trump a agi principalement par des décrets, executive orders, qui sont par définition des décisions unilatérales du président. Donc pour l'instant, il n'y a eu aucune législation de voter ou même de proposer, alors que effectivement, la fonction principale du Congrès, c'est de débattre sur des projets de loi et de les voter. Donc là, le Congrès est en attente aussi d'un programme. Concrètement, qu'est-ce que le président va leur demander de faire ?
Et justement, Stéphanie, est-ce qu'on sait de quoi Donald Trump va parler ?
Eh bien, le président veut surtout montrer qu'il est dans l'action, Marie. Il va certainement mettre l'accent sur ce qu'il estime avoir déjà accompli depuis son investiture. Et pour le reste, estime Jean-Éric Branaa, maître de conférence à l'université Paris 2 Assas, Donald Trump répétera probablement encore une fois ses promesses de campagne.
Qu'il faut mettre fin à l'Obamacare pour pouvoir donner un plan qui sera encore plus fabuleux et formidable que ce qu'il y avait avant. Qu'il va travailler sur l'immigration et fermer les frontières, qui va aller sur la sécurité. Il va parler surtout de patriotisme économique. Il va parler de ce renfermement sur l'Amérique. Et il va répéter cette phrase qu'il a dit il y a 3 jours et qui était très très forte. Je ne suis pas le président du monde, je suis le président des États-Unis. Vous n'êtes pas les élus du monde, vous êtes les élus des États-Unis. Je pense que c'est ça le message que va délivrer Donald Trump au Congrès.
Et pourtant, les élus et surtout les républicains au Congrès attendent de leur président des détails, une véritable feuille de route législative pour les mois et les années à venir.
Et qu'en est-il, Stéphanie, des élus démocrates ?
Eh bien, après avoir boycotté en partie l'investiture présidentielle en janvier, les démocrates semblent avoir changé de stratégie. Pour le discours de ce mardi, ils ont invité des personnes victimes des politiques de Donald Trump. Ainsi, on retrouvera dans les galeries qui surplombent l'hémicycle des musulmans, des enfants de migrants clandestins ou encore des homosexuels. L'accueil que les élus démocrates réserveront au nouveau président devrait donc être au mieux glacial ce soir.
Reste à savoir comment réagira Donald Trump, dont on connaît la difficulté à rester calme face aux critiques.
Oui, tout à fait. La Maison-Blanche a en tout cas promis, Marie, un discours autant optimiste et positif. Cela étant dit, pour l'investiture, l'entourage de Donald Trump avait aussi promis un discours sur le thème de l'Union. Mais on s'en souvient, ce sont des propos pour le moins clivants qui avaient été prononcés.
Merci Stéphanie Schuller. Je me tourne maintenant vers vous, Véronique Guémard. La presse américaine est-elle aussi dans les spectatives?
Effectivement, Donald Trump a annoncé sa volonté d'augmenter le budget militaire de 9% au détriment des budgets fédéraux qui alimentent des programmes sociaux les plus sensibles. L'éducation, l'environnement, les sciences et la pauvreté seront sacrifiés pour renforcer la sécurité, fait remarquer le New York Times. En revanche, il ne veut pas toucher aux dépenses de Medicare et de la sécurité sociale, contrairement à ce que préconise le chef du Congrès, le républicain Paul Ryan. Le président américain a mis devant le fait accompli les deux partis politiques, ce qui risque de provoquer un clash même au sein du parti républicain, avertit le Washington Post. Mais comment rajouter 54 milliards de dollars au budget militaire sans déshabiller tous les autres départements, se demande le sénateur républicain Bill Hoagland. Assurément, Donald Trump est mauvais en maths, ironise l'éditorialiste du Washington Post. Même en retirant tout le budget de l'Agence de l'environnement et du département d'État, calcule l'éditorialiste, on arriverait à une économie de 46 milliards de dollars, ce qui ne suffirait pas à couvrir l'augmentation du budget militaire souhaitée par Donald Trump.
Et cette annonce inquiète, y compris dans les rangs des militaires.
Oui, c'est ce qu'indique le New York Times, car couper dans les dépenses de l'aide internationale du département d'État et de USAID signifierait interrompre des programmes qui, selon les responsables militaires, contribuent à la stabilité et sont importants pour éviter des conflits. Les bénéficiaires de l'aide américaine, non militaire, incluent par exemple le Pakistan et l'Afghanistan, deux pays très importants dans la lutte contre le terrorisme, rappelle Politico. Plus de 120 généraux et amiraux à la retraite, dont le général David Petraeus, ont d'ailleurs signé une lettre ouverte adressée au Congrès et à la Maison-Blanche en rappelant que beaucoup des crises auxquelles les États-Unis doivent faire face ne peuvent pas uniquement se résoudre militairement, indique le New York Times.
Et de nombreux éditorialistes s'inquiètent du clivage engendré par ces différents discours de Donald Trump.
Oui, pour le National Journal, les temps sont périlleux pour les deux partis, républicains et démocrates. Où vont mener les colères de part et d'autre, se demande-t-il, alors que le Christian Science Monitor s'alarme, lui, de la montée de l'extrême droite et de la multiplication des actes racistes et xénophobes par des groupes et des individus qui se sentent confortés par les discours de Donald Trump et se permettent de dire des choses qui auparavant étaient inacceptables.
Le Mexique a lui aussi les yeux rivés sur les États-Unis et le discours de Trump, alors que les pressions s'accentuent contre les migrants.
Oui, le Sénat mexicain a d'ailleurs approuvé des réformes pour faciliter le retour des Dreamers, les Mexicains arrivés mineurs avec leurs parents aux États-Unis, qui devraient être protégés mais qui pourraient, dans l'ère Trump, être expulsés. Ces mesures incluent par exemple la reconnaissance des diplômes acquis à l'étranger, précise Milenio. Selon Excelsior, rien qu'au mois de janvier cette année, la patrouille aux frontières côté américain a arrêté 31 575 migrants sans papier, soit une augmentation de 32% par rapport à l'an dernier. C'est le chiffre le plus élevé depuis 5 ans, fait remarquer le journal, qui précise que pour renforcer les contrôles, les patrouilles ont recruté 150 agents supplémentaires dans la région du Valle de Rio Grande au Texas et deux commissariats ont ouvert avec une capacité de 500 détenus chacun.
Vous restez avec nous, Véronique Guémard, alors que Donald Trump promet d'accélérer ses expulsions vers le Mexique, notamment à Staten Island, le seul quartier de New York à avoir voté pour le président Trump. La résistance s'organise en ce moment. Écoutez ce reportage de Marie Bourreau auprès de l'association La Colmena qui vient en aide aux réfugiés illégaux.
Depuis le 8 novembre, Staten Island est une île coupée en deux. Au sud, les partisans de Donald Trump qui ne cachent pas leur satisfaction après ce premier mois de présidence.
Jusqu'ici, tout va bien. J'aime ce qu'il fait à propos du Mexique et de tous ces immigrés qui arrivent. Ces gens qui arrivent et font du mal à notre pays, ce qui ne devrait pas arriver. Il veut construire un mur pour nous protéger de ces gens qui arrivent et vivent ici illégalement sans payer d'impôts. Il faut protéger son pays en premier.
Je crois que les démocrates veulent des immigrés parce que les immigrés votent sans respecter la loi et c'est ce qui fait que les démocrates restent à leur poste. Le pays doit avoir des règles et les gens doivent respecter ces règles.
Mais quelques kilomètres au nord, ce sont des quartiers plus cosmopolites, à l'image de Port Richmond. Près de la moitié de la population est d'origine hispanophone. Ici, pas de mur physique pour séparer les populations, mais un mur moral et des vies suspendues aux décisions de la Maison-Blanche.
Ça a changé beaucoup de choses pour moi. J'avais l'habitude d'aller marcher au parc ou me promener dans une ville voisine, mais je ne le fais plus maintenant parce que je préfère être prudent. Je ne veux surtout pas être impliqué dans des histoires.
Cela fait plus de 20 ans qu'Amando vit aux États-Unis. Il paye ses impôts, travaille comme mécanicien, dit-il. Ses enfants sont américains. S'il est arrêté, c'est toute la cellule familiale qui est menacée.
On a un paquet de première urgence avec des papiers officiels qui permet à des membres de notre famille ou à des amis de s'occuper de nos enfants et de nos affaires pendant que nos statuts d'immigrants sont vérifiés.
C'est à ce genre d'éventualité que l'association La Colmena prépare les sans-papiers. Depuis le 8 novembre, elle a organisé 3 rencontres avec des avocats spécialisés sur les questions d'immigration. À chaque fois, la salle est pleine à craquer. Un vent de panique s'est abattu sur ces communautés hispanophones depuis que 2 pères de famille mexicains ont été arrêtés quelques jours auparavant.
On a déjà dû faire face à tellement de problèmes. Mais là, c'est juste le pompon. Mais il faut garder confiance et rester fort.
César Vargas, le seul avocat sans papier de New York et nouvelle égérie de cette bataille contre l'administration de Donald Trump, est venu prêter main forte.
Pour moi, je ne suis pas seulement un avocat, je suis aussi un sans-papier. Je suis un immigré qui peut potentiellement être expulsé. Je suis vraiment inquiet, mais on ne peut pas rester dans l'ombre. On doit raconter nos histoires parce que c'est exactement ce qui nous rend plus puissants. Et c'est comme ça que les gens vont comprendre. Hey, c'est mon voisin, ma petite amie, mon petit ami, mon pote. Et c'est exactement ce qui nous rassemble.
Traduction, c'est tout le tissu social américain qui est menacé par ce plan d'expulsion des sans-papiers. Et avec eux, c'est un peu de l'âme de l'Amérique qui s'envolerait. Marie Bourreau, New York, RFI.
8h22 à Bogota, la suite de votre revue de presse, c'est Véronique Guémard. Un Colombien a été exécuté en Chine pour trafic de drogue.
Oui, Ismael Arciénagas Valencia est le premier Colombien à être exécuté en Chine pour narcotrafic, titre Les Spectateurs. 130 autres Colombiens sont détenus dans des prisons chinoises, la plupart pour les mêmes faits. Ismael Arciénagas Valencia, aujourd'hui âgé de 74 ans, avait tenté de rentrer en Chine en 2010 avec 4 kilos de cocaïne contre 5 000 $, rapporte El Tiempo. Son fils, Juan José Herrera, n'avait pas pu lui parler depuis 7 ans. Hier soir, avant son exécution, il a pu s'entretenir avec son père pendant une demi-heure au téléphone pour un dernier adieu. Son père avait pourtant écrit sur les impacts négatifs du trafic de drogue. Il s'est retrouvé impliqué dans ce qu'il dénonçait. C'est une activité qui ne génère que la destruction, a insisté son fils.
Et on part enfin au Brésil. La fin du carnaval, c'est demain. Carnaval terni, on le sait cette année, par un deuxième grave accident de char cette nuit. 11 personnes ont été blessées, mais les organisateurs ont insisté pour que les défilés, pour que la fête reprenne. On connaîtra demain, Véronique, le nom de l'école de samba qui remportera le Grand Prix.
Oui, en attendant, c'est l'école Mangueira qu'on entend. Voilà, donc on entend cette samba qui a, donc c'est de cette école, Mangueira, qui a remporté la médaille d'or attribuée par le groupe de presse O Globo. Les jurés ont été conquis par l'émotion, l'esthétique de son défilé avec ses costumes blancs, de perles, de plumes, représentant des saints et la foi sur cette samba, donc intitulée « Seulement avec l'aide de Dieu ».
Et voilà pour cette revue de presse signée Véronique Guémard. Merci. Elle est à retrouver comme chaque jour, hein, bien sûr, sur RFI.fr, onglet Monde, puis Amérique. Il est maintenant 10h24 à Santiago, au Chili. De fortes pluies ont provoqué des coupures d'eau. 1 400 000 foyers sont toujours privés d'eau potable alors qu'il est dans la capitale. Et ces intempéries ont fait 4 morts et 7 disparus dans la cordillère des Andes. La correspondance de Laurie Fachot.
En plein été, par 30 degrés, plus d'eau potable dans les maisons, pas non plus d'eau en bouteille dans les rayons des supermarchés dévalisés. Un scénario qui se répète à chaque épisode de fortes pluies dans la cordillère des Andes depuis 4 ans. C'est de ces montagnes que vient l'eau qui approvisionne la capitale de 7 millions d'habitants. Dérèglement climatique donc, coulée de boue, éboulement de pierre, la principale entreprise d'assainissement de l'eau n'arrive plus à la traiter. Le gouverneur de la région de Santiago critique le manque d'investissement de cette entreprise, Aguas Andinas, face à cette situation d'urgence. Les autorités qui avaient pourtant obligé dès l'an dernier la compagnie à construire davantage de bassins d'eau. En attendant le retour à la normale, la capitale compte près de 300 points d'eau potable. La nature semble ne pas nous accorder de trêve, a déclaré la présidente Michelle Bachelet, face à ces pluies diluviennes et après les pires incendies qu'ait connus le Chili il y a moins d'un mois. Laurie Fachot, Santiago, RFI.
Le journal de l'Outre-mer.
Et bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Marie.
En Martinique, une gendarme a renversé hier soir par un scooter en marge du défilé carnavalesque de Rivière-Pilote.
Oui, c'est en tentant d'empêcher des jeunes d'entrer dans le périmètre sécurisé du centre-ville que la gendarme a été percutée par un jeune, donc, à scooter qui tentait de forcer le passage. Blessée à la jambe, elle a été évacuée vers le CHU de Fort-de-France. Le conducteur du scooter a été arrêté. Dans une ambiance quelque peu électrique, les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène. Bref, des événements que regrette évidemment le maire de Rivière-Pilote, Raymond Théodose. Il est au micro de Nathalie William.
La ville, et puis bien sûr le comité d'organisation, il y a eu quand même 64 agents de sécurité. Nous avons eu 130 gendarmes. Nous avons eu les pompiers, pratiquement les pompiers qui nous ont accompagnés. Nous avons mes services et services techniques. Donc je pense que nous avons mis tout en œuvre pour que la manifestation dénommée Festisud se passe correctement.
Alors un regret tout de même, c'est en marge de la manifestation et après 18h, un incident déplorable tout de même.
Un incident malheureux. Nous faisons tout pour que cette jeunesse-là, pour que les gens puissent s'amuser. Et au dernier moment, il y a une moto qui est venue simplement percuter une gendarme. Mais globalement, nous pouvons dire que cette manifestation s'est vraiment bien passée.
Ça peut vous dissuader d'organiser une nouvelle fois ce grand carnaval du Sud?
Non, il faut beaucoup plus que ça. On ne peut pas non plus, au moins l'incident, baisser. Non, on va encore prendre plus de mesures s'il faut que nous en prenions. Mais ce n'est pas ce qui va nous décourager, mais loin de là.
À part cet incident et avant cet incident, le carnaval du Sud de la Martinique, Festisud, s'était lui parfaitement déroulé devant une foule ravie. Écoutez ces échos sonores, pour le moins sonores d'ailleurs, vous allez l'entendre, échos sonores recueillis par Christine Cupit.
C'est mon premier carnaval.
Alors comment vous trouvez là ?
Génial, génial, plein de photos à ramener. Oui, je le découvre, j'en ai déjà vu des carnavals, mais non. Là, je trouve que c'est très artisanal, donc c'est très sympa. On a regardé aussi les Miss, c'était bien.
Génial, il y a une ambiance extraordinaire. C'est tout nouveau pour nous, parce qu'on n'est pas habitué à avoir une telle vivacité, on va dire, voilà, un tel entrain, c'est génial.
Pas top. Bon, déjà, j'ai pas compris le sens du trajet, le nombre de tours qu'ils ont fait aussi, parce que là, on m'a dit que c'est un seul tour qu'il y a eu, et comme je vois que c'est pas long, je pense que les groupes auraient pu au moins faire deux tours. Il y a du monde quand même, les costumes, ça va, bon, il y en a du coup, les costumes.
La dernière fois que ça a été réalisé, à Rivière-Pilote, je trouve que c'était mieux organisé et c'était plus beau.
Tout le monde s'est retrouvé sur l'allée principale, l'allée secondaire, il n'y a personne, ça se passe très bien.
Ouais. Voilà, c'était le lundi gras à Rivière-Pilote en Martinique. C'était évidemment, faut-il vous le préciser, la même chose hier en Guadeloupe et en Guyane. Bon après-midi Marie, à demain.
Merci Benoît Ferrand et merci à Jonathan Brady qui réalisait ce journal. Prochaine édition demain, 8h10, heure de Port-au-Prince toujours. Et demain, c'est Juliette Jacquemin que vous retrouverez à la présentation.
Priorité santé.
Claire Hédon vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine.
Demain,
comment améliorer la prise en charge et la rééducation après un accident?
Jeudi,
suis-je normale sexuellement? Les réponses du docteur Catherine Solano, sexologue.
Appelez-nous au 33 1 84 22 75 75 ou écrivez-nous à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé,
Claire Hédon.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU.
RFI. RFI, la sélection du mois.
Team Dup.
Le trajet, je le connais par cœur. De la campagne à Paname, dans les banlieues, les trams s'ébranlent dans le froid sous un soleil de plomb.
Canary.
Ce marteau qui tape, fixe dans l'avenue, les regards qui passent. Tu me suis pas sympa.
RFI.